La voix est libre.
La voix est libre.
Une émission qui parle dans le vide pendant plus ou moins 52 minutes.
À retrouver chaque troisième mardi du mois
sur Radio Campus Angers, 103 FM.
La voix est libre, saison 3. Vous le savez, dans cette émission, on vous propose des textes, souvent littéraires, parfois terre à terre, mais aussi des chansons, des interviews, des dédicaces et surtout des émotions. De la simple gêne au gouffre existentiel, ce sentiment peut nous entraîner du simple rire nerveux au suicide. Ce soir, nous allons parler de la honte qui n'a jamais failli devant les exigences du groupe. En tout cas, ça fait causer autour de la table ce soir Guylaine, Julien, Pascal, Anne, Caroline et moi, Lucie. Et nous partons explorer quelques facettes de ce terrain douloureux et terriblement humain.
La voix est libre.
Un thème.
Des textes.
Parfois littéraires.
Souvent terre à terre.
Quand on me dit la honte, je ne vois qu'une liste sans fin qui se passe de commentaires. Et là, voici cette liste. La honte d'aujourd'hui, c'est Mayotte, détruite. On n'imagine même pas que c'est pire que la honte, c'est l'apocalypse en vérité. La honte, c'est pire qu'un cyclone. C'est la honte d'habitat décent qu'on n'a pas pu donner aux gens. La honte d'un hôpital qui ne peut pas accueillir tout le monde. La honte d'un système économique qui ne tient pas et ne tiendra plus debout. La honte, je change de registre, pour une liste non exhaustive. Donc la honte, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. La honte, c'est, vous en conviendrez, Christelle Morançais et ses suppressions de financement aux associations culturelles, aux associations sociales, aux associations qui militent pour les droits des femmes. La honte, c'est aussi 6 millions de juifs morts en déportation. La honte, en général, ce sont les génocides de population. La honte, c'est Bernard Arnault, c'est Vincent Bolloré. La honte, c'est Elon Musk. La honte, c'est Vladimir Poutine. La honte, c'est Donald Trump et les autres du CAC 40. La honte, c'est aussi Dominique Pélicaud. La honte, c'est la déforestation, c'est l'appauvrissement des réserves naturelles. La honte, c'est que tout le monde s'en fout, en fait. Bon, j'arrête, sinon vous allez croire que cette émission n'est rien d'autre que le cri d'une adolescente attardée. En vrai, on va rigoler un peu quand même, c'est promis.
Merci Pascal. Oui, bah, t'as raison, la honte, elle est souvent bien plus grande que nous et pas toujours marrante. Vous êtes bien sûr Radio Campus 103 FM. La voix est libre, vous parle de la honte. On va pas se laisser impressionner quand même. Donc à chaque transition, on vous propose la lecture d'une de nos petites hontes ordinaires. Celles qui font le sel de la vie, celles dont on se dit, tiens, on en rira dans 10 ans. On va commencer par celle-ci. En quatrième, mon prof de français, Monsieur R, me tend ma rédaction. Je vous ai mis 16, vous pourriez faire mieux si vos parents vous emmenaient au musée, comme votre amie Karine. La fille du maire, notaire de Beaufort, qui a eu 18. De la culture, quoi. Voilà, est-ce que vous sauriez trouver à qui appartient cette honte autour de la table?
C'est quelqu'un qui a grandi à Beaufort, alors. C'est ça?
Moi, je pense que c'est Guylaine.
Vu sa tête,
pour quelle
là, dans
raison
le studio. Parce qu'elle allait au musée et que, en fait, ça se voyait pas.
Ouais, ben non, mais c'est moi. Oh, oui. Quatrième, Jeanne d'Arc, Monsieur R, Monsieur Rumeb. Je le déteste.
La honte, ce mec. Franchement. Bon, bah, Julien, s'il te plaît, un rendez-vous manqué avec un spécialiste de la honte.
Comme vous le savez, notre sujet du jour est la honte. Avec un petit H, parce qu'elle aime être tue ou bue, qu'elle se cache ou qu'elle se montre timide. Mais nous n'avons pas rendez-vous avec elle, mais avec Hervé Saint-Guilly. Professeur émérite à l'Université de Paris, docteur honoris causa des universités de Vaduz et du Luxembourg, il développe une approche sociologique autour du parcours de vie, notamment autour des récits autobiographiques de sa tante et de sa mère, faisant émerger des problématiques contemporaines comme la névrose de classe ou les trajectoires clivées. Cher professeur, bonjour.
Bonjour, bonjour.
En quelques mots, pour nos éditorisques, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir la honte comme sujet d'étude ? Votre enfance ?
Les récits autobiographiques qui ont inspiré mes études sont ceux d'Annie Ernaux, de Jacques Lanzmann ou de Violette Leduc, de Jean Genet, de Marguerite Duras ou de Primo Levi. Pour répondre à votre question, j'en suis venu à la honte comme sujet d'étude, s'entend, par hasard. Je relisais Lévinas et une phrase m'a frappé. Ce qui apparaît dans la honte, c'est l'impossibilité radicale de se fuir pour se cacher à soi-même. La honte ne révèle pas notre néant, mais la totalité de notre existence. Et puis je m'étais frotté au caractère multidimensionnel de la honte. Car ce sentiment nous touche dans tout le répertoire de notre humanité, corporelle, sexuelle, morale, sociale.
Vous voulez dire qu'il existe plusieurs sortes de honte ?
Oui et non. Je parle plutôt de dimension. Chaque dimension n'est pas forcément séparée d'une autre.
C'est-à-dire ?
Prenons quelqu'un qui pratique le yodel.
Le yodel ?
Le yodel, vous savez, ce chant caractéristique du Tyrol, en Autriche et surtout en Suisse.
Le yodel ?
Le yodel. Eh bien, si cette personne ne parvient pas à travailler cette technique, parce que sa voix n'est pas adaptée, elle peut ressortir de la honte, liée à son incapacité à chanter comme ses camarades tyroliens. Une honte que l'on pourrait à la fois caractériser de corporelle, puisqu'elle fait face aux limites de ses cordes vocales, et de sociale, puisque cette honte prend corps dans un contexte social, ici la pratique commune du yodel, où cette personne sera invalidée par les autres.
Mais Hervé Saint-Guilly, une question me trotte dans la tête.
Oui.
Vous pratiquez le yodel ?
Oui, bien, pour ne rien vous cacher, oui. Je dirais même que j'ai mon petit niveau en yodel. Oh, très loin de l'exceptionnelle yodeleuse Mélodie Wesh, mais j'ai passé une partie de mon enfance dans la Suisse romande, et je pratique régulièrement, oui. Je prends des cours.
De yodel ?
De yodel.
Alors, je ne veux pas vous forcer, mais c'est la première fois que j'accueille un professeur émérite qui pratique le yodel. J'aimerais beaucoup entendre un petit air. Je suis sûr que je suis pas le seul.
Oh non, je crois que c'est guère ni le lieu ni l'endroit.
J'insiste.
Eh bien d'accord, c'est avec plaisir. Alors, vous savez, il y a plusieurs sortes de yodel. Il y a le yodel de Genève, celui de la Bavière, un peu plus nasillard.
Ne vous inquiétez pas, professeur, je suis certain que nous allons vivre un grand moment de radio.
Je vais vous chanter quelque chose. Alors, c'est un chant de galeries qui s'appelle « La chevauchée du papillon ». Vous allez voir, c'est assez entraînant. Enfin, façon yodel. Hein.
Merci, Hervé Saint-Guilly. Vous êtes vraiment un grand chanteur de yodel. Je le pense vraiment.
Ah. Mais merci Julien pour cet éclairage spécifique. On enchaîne avec Guylaine qui va évoquer la place de la honte dans l'œuvre d'Édouard Louis. J'oubliais. Il y a quand même quelqu'un qui a une honte à nous livrer autour de la table. Je vous la lis tout de suite. Quand j'étais prof de français, j'avais tous les lundis matin une classe de 3e, toujours très agitée. Il y avait toujours 5 minutes de gros bordel avant que chacun sorte ses affaires de cours. Et comme les élèves me gonflaient, j'ai dit bien fort « Bon, maintenant, ça suffit, vous sortez tous votre sexe. » Au lieu de dire « texte ». Heureusement, ils n'ont pas entendu, sauf le petit Willy au premier rang, qui m'a regardé avec des yeux interloqués, pour le moins.
Mais du coup, Pascal, c'est pour ça que t'as arrêté d'être prof de français ?
Oh, c'est pas pour ça, c'est surtout à cause de la salle des profs.
C'est la seule qui a été prof de français.
Mais en fait, c'est cette anecdote. Elle aurait pu être catastrophique. Elle aurait pu être catastrophique parce que si tous les élèves avaient entendu, je pouvais remballer mes affaires dans mon petit cartable et rester chez moi jusqu'à la fin des temps.
Quelques années, ouais.
Ou assumer. Ou assumer. Oui, j'ai dit sexe.
Ouais.
Ou rire. De partir formidable. Le grand rire. Merci, donc, Pascal, de nous avoir livré cela. On enchaîne donc vraiment cette fois-ci avec Guylaine, qui va évoquer la place de la honte dans l'œuvre d'Édouard Louis.
Et oui, comment parler de la honte sans évoquer Édouard Louis ? Édouard Louis, c'est ce jeune auteur de 32 ans qui a fait une entrée fracassante dans le monde littéraire en 2014 avec En finir avec Eddie Bellegueule, un roman à forte dimension autobiographique dans lequel il dépeint sa famille et son milieu social d'origine, le milieu ouvrier et rural de la Somme. Et il est prolifique, en 10 ans, il ne compte pas moins de 7 romans à son actif, tous consacrés à son histoire ou à celle de ses proches. Édouard Louis vient d'ailleurs de clore sa fresque familiale avec son dernier livre paru en octobre, narrant l'histoire de son grand frère Marc décédé à l'âge de 38 ans. Et moi, Édouard Louis, bah je l'adore. C'est mon Annie Ernaux masculin, mon Didier Héribon romancier. Je le kiffe, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À chaque sortie littéraire, les railleurs l'attendent au tournant, toujours prompts à se moquer de la plainte, de la misère, de la laideur, de ceux qui en sont issus et qui en parlent. C'est effectivement son malheur que raconte Édouard Louis. Il le décline à l'envi, l'analyse, le détail, ce qui agace et provoque ce qu'on peut appeler un mépris de classe. Mais ses œuvres sont loin d'être que répétition. Se répéter l'aide à se défaire, à regarder et à se réinventer. C'est son processus de différenciation qui nous raconte, sa revanche sur la pauvreté et l'injustice qui passe par le sentiment de honte et la honte d'avoir honte. Parler de la violence qu'il a connue et qu'il connaît, c'est la rendre visible et s'en défaire. Dans Changer, méthode, Édouard Louis écrit que la honte est une mémoire, ajoutant « Plus tard, ma honte continuera de s'élargir, de prendre toujours plus de place en moi. » Comme si la honte du transfuge de classe devenait un entre-deux, un non-lieu. Il raconte comment passer d'une classe à une autre, c'est opérer une violence sur son propre corps qui laisse forcément des traces. C'est ça aussi la force d'Édouard Louis, c'est d'amener la question de la mise en mouvement, que l'on soit transfuge de classe ou pas, visible jusqu'au corps du texte et au dispositif d'écriture choisi. Il creuse ainsi la figure de l'évasion. Ses deux derniers romans, Monique s'évade et L'effondrement, publiés à quelques mois d'intervalle, en forment le plus parfait diptyque. Si sa mère réussit à partir dans un livre lumineux, heureux, énergique, le frère n'a pas réussi à fuir et c'est ce qui le tuera. Je dois avouer que j'ai eu du mal à choisir quel extrait j'allais vous lire, et puis je me suis dit, bah, autant commencer par le commencement. Alors allons-y. En finir avec Eddie Bellegueule, livre 1, Picardie, fin des années 1990, début des années 2000, rencontre. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons, le premier, grand, aux cheveux roux, et l'autre petit, aux doux voûtés. Le grand aux cheveux roux a craché « Prends ça dans ta gueule ». Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons « Regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute !» Il s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. Je n'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d'un revers de manche. Il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule pour que le crachat n'entre pas en contact avec mes lèvres, mais je ne le fais pas, de peur qu'il se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Je n'imaginais pas qu'il le ferait. La violence ne m'était pourtant pas étrangère, loin de là. J'avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d'autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d'insistance et mon père, sous l'emprise de l'alcool, qui fuminait « Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça, sale bâtard ?» Ma mère qui essayait de le calmer « Calme-toi chérie, calme-toi », mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient par intervenir, forcément, c'était la règle. C'était ça aussi, être un vrai ami, un bon copain, se jeter dans la bataille pour séparer mon père, et l'autre, la victime de la saoulerie au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu'un de nos chats mettait au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton jusqu'à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l'avais vu gorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu'il extrayait pour en faire du boudin, le sang sur ses lèvres, son menton, son t-shirt. C'est ça qui est le meilleur, c'est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant, comme on perceptionnait sa trachée artère, étaient audibles dans tout le village. J'avais 10 ans, j'étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir, je ne les connaissais pas. J'ignorais jusqu'à leur prénom, ce qui n'était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire d'à peine 200 élèves, où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants, ils ne dégageaient aucune agressivité, si bien que j'ai d'abord pensé qu'ils venaient faire connaissance. Je ne comprenais pas pourquoi les grands venaient me parler à moi qui étais nouveau. La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde, les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers, « Nous les petits, on n'intéresse personne, surtout pas les grands bourges. » Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années. « C'est toi le PD ?» En la prononçant, ils l'avaient inscrite en moi pour toujours tel un stigmate. Ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. C'est la surprise qui m'a traversée, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on m'en disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure. Je vous laisse deviner la suite.
Such a shame. Number me with rage.
On peut être fier d'avoir écouté Talk Talk. C'est pas le cas de toutes les chansons qui figurent dans nos playlists. Bon, j'en profite pour vous glisser une petite honte ordinaire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte d'aller faire des courses avec un ami qui était habillé vraiment comme un sac.
Mais qui peut avoir...
De qui est cette phrase ?
Bravo. Qui peut ? Bah bravo. Qui est jugeant comme ça chez nous ? Méchant, méchant. Julien ? Les absents peut-être ? Julien ?
Moi je dirais bien que c'est Julien, moi.
Ouais, moi je vote pour Julien. Allez, Julien, c'est notre dernier mot.
C'était Caroline. Non, je sais pas.
Oh, oui, c'est elle. Oui, c'est Caroline, ça, bien
avec
sûr.
Ce visage
c'est Caroline.
D'ange.
C'était qui l'ami ? Parce que là, il faudra nous dire.
Ah, oui. C'était toi.
C'est ça. Qui est-ce qui a été faire les courses avec elle dernièrement ? Ah là 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 là.
Elle se tait.
Les gens cachent bien leur jeu quand même.
Bon, passons. Je passe la parole à Pascal qui nous entraîne à son quiz, avec son quiz dans les abysses de nos goûts musicaux.
Effectivement. Nous avons eu l'idée, les uns les autres, de recueillir nos chansons honteuses. Alors, c'est un jeu assez commun aujourd'hui. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de deviner, de reconnaître l'air que vous allez entendre et de deviner quelle est cette chanson honteuse. Et puis, secondement, de savoir qui a choisi cette chanson honteuse. Donc, c'est parti, et Caroline, pour le premier extrait.
On va en découvrir. Joins me with the children yet to be. I can now be a part of the ongoing stream that has always been a part of me. Bon, le rire nous donne une indice sur la deuxième réponse, mais sur le titre, moi, je sèche. Hein.
Alors, moi, j'ai l'impression que je reconnais la voix de Barbara Streisand.
Oui, bravo, Pascal.
Carrément. Et à mon avis, c'est Lucie, parce que je la vois sourire jusqu'aux oreilles. J'ai même l'impression qu'elle connaît les paroles par cœur.
Oui, tout à fait. Ça me fait, mon corps entier a besoin de bouger quand j'entends cette chanson. Mais attention, l'écœurement vient très, très vite. Et je l'ai réécouté. Ça fait deux jours que j'en mange tous les matins en me réveillant. Enfin, ça dégouline très, très fort.
Ah là là, et pas seulement sous la douche, du coup.
Non.
Oh la vache.
Okay. Donc, alors, deuxième extrait maintenant. Ok. Prépare les valises, ma jolie. Tout ça, c'est fini. Alors, Anne, là, elle est complètement déchaînée. Donc, je pense que c'est ça. On parle plus du quartier.
C'est pas moi. Toute la semaine, comme
les gilles en folie. Je peux pas te donner.
Bon, le titre, c'est la kiffance. Hein.
Ouais, c'est Guylaine.
Moi, je kiffe. Mais j'ai honte de kiffer, du coup, parce qu'il est quand même suspecté d'agression sexuelle. Du coup, je suis pas à l'aise. Mais en même temps, je me balançais comme ça.
Et qui est-ce qui chante ça?
C'est la honte.
Je ne sais pas, c'est la honte.
Tu peux avoir honte.
De Naps.
Naps.
Bah oui, c'est la kiffance totale.
Excellent, excellent.
Mais la honte, quoi.
Alors, on poursuit. Merci Guylaine, merci Lucie pour cet enchantement.
Je vais te demander, Pascal, de meubler un petit peu pendant, on va dire, à peu près 30 secondes, parce que la prochaine chanson, il faut pouvoir l'écouter au bout de 40 secondes.
Donc, c'est une chanson qui commence musicalement
A priori,
très longuement. Alors, tu l'as lancée, là ?
Oui, je l'ai lancée, ça tourne. On va dire qu'on n'a plus que 20 secondes à meubler.
En même temps, l'étau se resserre pour savoir à qui ça appartient.
Oui,
c'est ça.
Oui, alors il ne reste plus que Anne, Caroline, Julien et
Caroline,
moi.
Et Julien et toi.
Ouais, donc, il reste encore 4 titres.
Allez,
c'est
ça. On va dire que
c'est très lent.
Qu'on peut la lancer. Moi, chérie, tu as contresens. Putain, où tu étais quand je mettais des 5 euros d'essence.
Je veux nous faire la guerre. Par Dieu, c'est bête. Ça prend ton OG, Anne. Ça prend ta gadget, ça prend ta CB. C'est Anne. Alors là, c'est Anne. Téléphone mais comme
c'est Marseille bébé.
Se déchaîner depuis le début. C'est Marseille bébé. Ça m'est rincé
dédé. Ouais, je suis en Je sais pas qui chante. Je sais pas, soprano ou un des.
C'est. Il y a Naps. C'est un combo, ça s'appelle Bande Organisée. Il y a Naps, il y a Jules et tous les rappeurs de la classe.
Bah voilà.
Voilà, c'est un peu la honte aussi de kiffer ça, mais.
Mais il n'y a pas de honte.
Et alors, mes enfants ont très, très, très honte quand je mets ça, ils détestent. Mais moi, j'adore. Ça m'énergise à mort. Ah, j'adore Bande Organisée.
Bah, je ne connaissais pas.
Tu vas l'ajouter à ta playlist, Pascal.
Imagine. Tout pareil.
C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible.
On a hâte.
On envoie la.
Ah, bah là, on voit la purée. Hein.
La oui. quatrième. Mmh. Les taux se resserrent d'autant plus.
Pascal. Ouais.
Alors, Julien, moi, ce sera dans Caroline. Un tout autre registre. Rien à voir.
Patrick Bruel. Tout à fait,
ça sent Patrick Bruel. Ouais, ça. Ouais.
Comment je ne sais pourquoi elle allait danser.
Moi, je préfère tellement la version de Lucienne Delisle. Qu'est-ce que c'est que ça?
Quel massacre.
Ouais. Qui c'est qui est romantique là, ce qui reste?
C'est Caroline.
Alors là, je vois la surprise sur la honte oui. en texte, la honte en chanson. Mais ce n'est pas la Caroline oui. qu'on connaît.
C'est toi ça, Caroline.
Ouais. Mais quelle honte!
Quelle honte! Oh. Quelle honte! Alors qu'on a une version initiale qui est de toute beauté.
Mais respectez Patrick un petit peu, s'il vous plaît.
Une chanson que j'ai chantée à des mariages familiaux maintes et maintes fois avec une vieille tante.
Bien la voix de Patrick.
Waouh.
On l'arrête quand même.
Ah ouais.
Oui, oui, on l'arrête.
Bon, au-delà de la honte, il y a la souffrance.
Et du coup, bon, la dernière sur qui bon, ça va être... Ah non,
il reste Julien et moi.
Ouais. Alors, est-ce qu'on va deviner le titre?
Dans un voyage en absurdité.
Michel.
Ah, oh, Michel Sardou, mais quelle horreur.
J'ai imaginé son complexe.
Ah, c'est que maintenant là,
je changeais de sexe. Que je vivais.
Alors soit tu fais semblant de ne pas la connaître par cœur, ou alors c'est Julien.
Moi j'attends autre chose.
Alors moi j'ai
Calde, quelque chose de plus...
Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi la Mariam de
l'autorité. Je déteste Michel Sardou.
Alors moi j'ai un petit indice parce que Julien m'a confié un secret. C'est que cette chanson, il la passait dans la voiture quand il partait en vacances. Et dans la famille, ils la connaissent tous par cœur. Mmh. Je te jure la honte.
Donc c'est Julien.
Oui.
C'est Julien okay. qui nous offre cette honte.
Alors Pascal.
On va découvrir
alors,
ta honte.
C'est, oui, là, nécessairement, c'est moi.
Oh là là.
Et là, en revanche, je la connais par cœur.
Mmh. Il faut qu'on trouve le titre, mesdames.
Ouais.
Pour l'instant,
le titre et l'interprète.
Ah, si. Julien, je connaissais le titre, mais les autres, je ne connaissais pas les titres. Chers auditeurs,
aujourd'hui ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais.
C'est pas bien, et Mathieu.
Petit bal où l'on s'est rencontré. Je n'ai pas cessé de t'aimer.
Sylvie Vartan ?
Non.
Ah, ça pourrait, ringard, ça pourrait.
C'est une chanson anti-féministe. La chanson la plus anti-féministe qui existe.
Ah oui, c'est terrible.
Ton journal,
de fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé.
Soit, écoutez le refrain quand même.
Attention.
Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi l'amour.
C'est bon, Pascal.
C'est qui
C'est Michel.
Michel.
Michel Thor.
Ah, Michel Thor,
oui,
bah oui.
Bien sûr.
Oui,
bien sûr. Je m'appelle Michel.
Emmène-moi danser
ce soir. Ah, formidable.
Mon père, oh, mon père. Michel Thor.
Ça date d'une génération avant, quand même, tu le sais.
Ah,
oui, Pascal. Oui,
oui, oui.
D'accord.
Non,
c'est, bah, c'est la
j'ai
honte.
J'ai bien conscience que c'est la ringardise absolue. Mais
c'est très, tellement bien.
Je suis fan.
Ah, mais je comprends.
Je suis fan.
Quelque chose de désuet, un petit peu.
Anachronique.
Voilà.
C'est ça, complètement anachronique.
Le monde d'avant.
Bon. Limite, elle serait censurée, cette chanson, 2024.
Mmh. Ouais. C'est pas très woke, effectivement. Mais enfin bon, c'est quand même pas mal, la honte, par moment. On a pris un peu de plaisir. Merci, Pascal. Voilà, des fois c'est bien, puis des fois ça fait mal, hein, n'est-ce pas, Anne?
Voilà. Ma dernière honte, c'est une phrase. Une phrase prononcée par Guillaume de Palma, avocat de la Défense, dans le procès Mazan, qui déclarait « Il y a viol, et sans intention de le commettre, il n'y a pas viol », le 10 septembre 2024. Juridiquement, c'est incorrect. Mais cette phrase a créé la stupeur. Pourquoi l'a-t-il prononcée ? Parce qu'un avocat n'est pas le garant du droit. Un avocat est là pour défendre, pour convaincre, pour démontrer. Et pour cela, il utilise les mots, on appelle ça la rhétorique. Plus que ça même, l'émotion. C'est l'émotion qui va résonner en chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. C'est l'émotion qui va nous toucher. Le récit et l'émotion, c'est la combinaison gagnante d'une histoire qui fonctionne. Le dernier ingrédient magique d'une histoire qui fonctionne, c'est le vide. C'est ce qui n'est pas dit. Ce sont les stéréotypes, la culture, les idées reçues, l'histoire de chacun. Cet espace vide fait le lien et participe à la circulation des histoires. Alors je précise que cette théorie, je la tiens de Nathalie Séjean, fabriqueuse d'histoires qui vit à Lille et qui propose une façon tout à fait éclairante de comprendre la notion de circulation des histoires. Vous pouvez la chercher sur Instagram et sur Internet, elle est formidable.
C'est quoi le rapport, Anne ?
Alors, pour le coup, soit les faits permettent de réunir ces éléments et ainsi de caractériser l'infraction, soit ils ne se le permettent pas et une autre qualification peut être proposée. Par conséquent, il ne peut pas y avoir viol et viol. Soit il y a viol, soit il n'y a pas viol. Au vu de l'état actuel du droit en France, la notion de consentement n'étant pas inscrite dans le droit, il faut plutôt prouver l'intentionnalité de l'auteur des faits. L'avocat, là, s'appuie sur le fait qu'il faut démontrer que leur auteur avait bien connaissance que la victime était endormie. En fait, le rapport, c'est cette notion de culture du viol et les sous-entendus, comme quoi le viol conjugal n'est pas vraiment un viol, le viol est commis par un criminel qui le porte sur lui et qui attaque dans les petites rues mal éclairées, la preuve d'un non-consentement est non d'un consentement, les effets de sidération des victimes qui ne sont pas envisagés, etc., etc. Bref, derrière, il y a encore plus de clichés, notamment sur le caractère des femmes, lascives, séductrices, et qui l'ont bien cherché. Quand on commence à se demander si cette version de l'histoire a toujours existé, c'est vertigineux. Depuis quand est-ce que les hommes discutent de l'infime subtilité entre viol et viol ? Est-ce qu'il faut remonter au procès d'Aix-en-Provence et à la plaidoirie de Gisèle Halimi ? Ah ben non, ça c'était hier. Est-ce qu'il faut remonter au péché originel, au moment où Ève a honte de se retrouver nue devant Adam ? Ou peut-être aux premières histoires que les hommes ont commencé à se raconter ? L'histoire des dieux grecs, de ces héros tous masculins, glorifiés par des poètes, des tragédiens, des peintres, des sculpteurs. Le valeureux Achille, le courageux Hector, le téméraire Jason, le surhumain Héraclès, l'audacieux Thésée, l'endurant Ulysse. Dans ces histoires, les héroïnes, les déesses, les femmes brillent par leur noirceur ou leur fragilité. Médée, la mère infanticide, folle et hystérique. Pénélope, l'épouse écrasée par le destin. Hélène, la faible femme enlevée à son époux. Et je parle pas de Méduse, hein, cette gorgone à la tête grouillante de vipère. Dans son ouvrage « L'Odyssée des femmes », paru en 2023 chez l'Iconoclaste, que Muriel Zach, l'autrice du feuilleton d'Ulysse, Hermès ou Thésée, elle fait son mea culpa et elle dit « Jusque-là, je n'y avais vu que du feu, des mythes romains aux tragédies antiques, des tragédies classiques aux pièces contemporaines, en passant par la poésie, la peinture, la sculpture, je n'avais pas compris que la mise en récit des dieux et des héros nous était parvenue du seul point de vue masculin, que cette histoire d'hommes, racontée par des hommes, pour des hommes, cachait bien d'autres facettes. » L'époque nous invite, il était temps, à réexaminer nos représentations et nos présupposés. Toutes ces femmes, dans tous les domaines qui ont été niées, gommées au fil des siècles. Les figures féminines des mythes ne demandaient, elles aussi, qu'à sortir de l'ombre. J'étais loin de me douter que le voyage au pays des dieux que je m'apprêtais à accomplir allait se transformer peu à peu en une véritable odyssée des femmes. Etc, etc. On retrouve donc Méduse, celle dont on m'a donné à moi à relire l'histoire en 2023 au Festival Off d'Avignon par la compagnie La Gang. La figure de Méduse est toujours présente dans la culture contemporaine et a été revendiquée comme un puissant symbole de colère et de pouvoir par le courant féministe, notamment par Hélène Cixous, Sarah Kaufman et Suzanne Bowers. Pourquoi ? Parce que la version la plus connue du mythe antique de Méduse nous raconte comment le héros Persée parvient à tuer la Gorgone, monstre féminin à la chevelure de serpent, qui a le pouvoir de pétrifier quiconque la regarde. Le regard féministe permet d'accéder à ce dont on ne se souvient plus, c'est-à-dire les raisons de la métamorphose de Méduse en Gorgone. Fille de Phorcys et Céto, Méduse est une belle jeune fille dont Poséidon s'éprend. Un jour, il se transforme en oiseau et l'amène dans un temple dédié à Athéna.
C'est dans ce temple qu'il la violera durant toute une journée. Athéna, choquée qu'un tel acte ait pu avoir lieu dans son temple, décide de punir la victime du viol, pas le violeur. Ah bah non. Et elle la transforme en gorgone. Ses cheveux deviennent des serpents, ses yeux se dilatent et désormais son regard pétrifiera tous ceux qui le croisent. Selon une autre version que cite Apollodore, Méduse était une jeune fille tellement fière de sa beauté et de sa chevelure qu'elle aurait osé rivaliser avec Athéna. Alors pour la punir, la déesse changea ses cheveux en serpent et modifia son regard. De même, selon Ovide, parmi tous ses attraits, ce qui charmait sur tous les regards, c'était sa chevelure. Bref, pour éviter de se faire violer, elle aurait quand même pu penser à se couper les cheveux, non ? À chercher quand même. Bon, là, on s'éloigne, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fait partie de la famille. Je suis victime de viol et je suis punie pour ça. Ce que je trouve hyper intéressant dans ces mythes, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes problématiques qu'actuellement. On apprend aux victimes à avoir honte, on les culpabilise, on leur demande si elles avaient bu, on leur dit qu'elles exagèrent, on leur dit de faire attention à ce qu'elles disent, il ne faudrait pas détruire la réputation du gars, on leur dit qu'elles devraient être flattées quand même. Et c'est ainsi qu'on va banaliser les viols. C'est pas du viol si vous êtes en couple. Cette personne, tu la connais, donc ça peut pas être un viol. Cette personne est sympa, elle fait des études, elle est propre sur elle. Elle ne peut décemment pas être une violeuse ou un violeur. Arrête d'exagérer. Alors, entre également en compte la culpabilisation de la victime, plutôt que de celle du coupable. On punit la personne qui a été violée et on cherche des justifications au viol. Pourquoi je vous raconte ça ? Le mythe de Méduse est vraiment pluridimensionnel et je ne prétends pas que mon interprétation soit évidemment la seule qui vaille. D'ailleurs, chaque époque réécrit les mythes à sa manière. Mais la relecture des mythes au féminin d'aujourd'hui permet de réinterroger cette honte, la honte de la victime qui doit changer de camp. Cette phrase « il y a viol et viol » repose sur une histoire qu'on nous raconte depuis si longtemps. Il ne s'agit que de ça. Pourquoi est-il important de relire l'histoire sous une dimension plus égalitaire ? Parce que si nous commençons à refuser de continuer à perpétrer des stéréotypes de genre, et plus généralement des stéréotypes liés à tous les groupes sociaux, à refuser de continuer à faire circuler cette histoire, on sera acteur du renouvellement de l'ADN culturel de notre société. L'histoire, les mythes et autres doivent donc continuer d'être racontés, mais d'une manière plus juste, moins centrée sur les hommes, moins hétérocentrée, moins européocentrée, et surtout avec une remise en question de nos valeurs actuelles. Et la culture du viol sera également relayée au rayon des histoires anciennes.
C'était un vendredi soir, il est venu pour me voir. Tout s'est passé dans le noir, il est entré dans mon monde. J'en avais pas envie, son visage devient immonde. Je lui dis laisse-moi tranquille, sur moi ses sous-vêtements tombent. Impossible de partir, il m'a couvert de honte. Ils m'ont dit, fallait pas te laisser faire. Ouais t'as choisi de te taire, t'aurais pu t'échapper en espérant qu'on t'aide. Fallait pas l'embrasser, fallait pas que tu te fasses belle. T'avais qu'à lui montrer où remonter ta bretelle. Pourquoi t'en parles maintenant ?
Pourquoi t'en parles maintenant ?
Bah ouais, on sait que tu mens.
Bah ouais, on sait que tu mens.
C'est de ta faute. Ce n'est pas si grave. C'est de ma faute. Ce n'est pas si grave. Ça arrive à d'autres. Voler le cœur d'une rose. Il l'a fait par amour. Il le refera encore. C'est pas de sa faute. Là, maintenant que je vous parle, oui, c'est grave. Il vous ment. Il prépare son discours. Il dira que je suis folle. Impunément, ce n'est pas si grave, c'est de ma faute. Ce n'est pas si grave, ça arrive à d'autres. Voler le cœur d'une rose, il l'a fait par amour, il le refera encore.
Honte ordinaire numéro 4. Attention, accrochez-vous, c'est du lourd. J'ai demandé à quelqu'un à la caisse réservée aux handicapés d'un supermarché de sortir sa carte pour attester qu'il était bien invalide. La personne me l'a montré. Il était bien invalide. Voilà.
C'est la honte.
Ah, donc c'est quelqu'un qui a travaillé en caisse peut-être ? Qui a fait un petit boulot de...
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Non ? Pas
du tout.
Bah si,
un client.
Ah, un client, genre t'es derrière une personne et t'as des doutes.
Tu te demandes.
Et tu t'imposes justicier, quoi. T'es shérif, quoi.
Oui, ouais, et en plus...
Oh, c'est la honte.
Alors là, c'est la honte. Je sais pas.
Lucie.
Ouais. Voilà. J'ai un peu triché, en fait.
Ah, c'est un copain à toi.
J'ai dîné avec des gens et au milieu de la soirée, comme on parlait de ça, il a livré cette honte. Et on était vraiment tous horrifiés. Lui-même l'était.
Et c'est lui qui l'a fait.
Ouais, c'est lui qui l'a fait.
Ah ouais.
Mais qu'est-ce que c'est que c'est ton ami?
Je pense que ça découle d'une journée de mauvaise humeur, sans doute. De très grande mauvaise humeur, je ne sais pas. En tout cas, c'est fait. Et aujourd'hui, il en parle comme d'une honte. Je pense qu'il a, il a été mort de honte.
Mortifié, ouais.
Mortifié de honte.
Ouais. Tu nous donneras son nom en off.
Bien sûr que non. voilà, mais il n'en fallait pas moins pour introduire ce que je vais vous dire ensuite. Voilà, je vais vous parler de cinéma. Tout cela me fait penser à un film que j'ai découvert à premier plan. Tiens, je glisse ce mot ici parce que il paraît que c'est peut-être pas très important la culture. Bon, bref.
Là, c'est vraiment la honte de penser une chose pareille.
Bah oui. Donc, voilà, mes parents viennent à Angers. Je les suis lors d'une projection. On va voir un film, cinéaste inconnu au bataillon. Advienne que pourra. Le film commence, esthétique arty, dispositif de 4 âges expérimental. On se demande un peu où ça va. Plusieurs histoires sont racontées en parallèle, sans lien apparent. Puis, peu à peu, on comprend. Les personnages principaux de ces histoires se prennent tous les pieds dans une situation invivable. Une jeune professeure intransigeante, rejetée par ses collègues, exige le respect. Un mec se lâche un peu trop durant un week-end mal. Un patriarche préfère se vider de son sang plutôt que de dire qu'il s'est fait mal. Madame Tout-le-Monde, qui rend cinglé un conducteur de car déséquilibré à cause d'une petite lâcheté qui aurait dû passer inaperçue. Ce qui m'a fascinée ce jour-là, c'est que j'ai fini par ressentir physiquement cette honte profonde qui étreint chacun d'eux. Le souffle court, j'ai été submergée de gêne, j'ai voulu tout annuler, rembobiner le film pour ne pas vivre ce cauchemar avec eux. Ce qui est fait, est fait. Il faudra, vaille que vaille, vivre avec sa petitesse, sa fragilité, sa bêtise, sa médiocrité, sa marginalité dévoilée au monde. Pas de porte de sortie. C'était brutal et assez jouissif, j'avoue. Ce film, c'était Happy Sweden, sorti en 2009 de Ruben Östlund, qui remportera par la suite 2 Palmes d'Or au Festival de Cannes pour The Square et Sans Filtre. En fait, cette brutalité, elle est présente dans tous ces films. Je pense aussi au film Snow Therapy, je ne sais pas si vous l'avez vu, où... Un père de famille est percé à jour par sa famille, est percé à jour par sa femme et ses enfants quand il fuit une avalanche en courant, les abandonnant tous à leur possible triste sort. Bon, simplement, ça n'arrive pas. Et le problème, c'est qu'il va nier les faits. Il nie désespérément devant des amis et le regard de sa femme médusée. La gêne est immense. En repensant à ça, je me suis dit, mais vraiment, ce Ruben Östlund a à voir avec la honte. Alors j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé en 2022, il explique. La honte est un élément clé de ce que je fais. Dans une situation donnée, le dilemme n'est réellement efficace que si aucune des options qui s'offrent à toi n'est confortable. D'une certaine manière, la situation est plus importante que le personnage. La question n'est pas que le personnage vive la situation bien ou mal, mais qu'elle soit invivable. Tous ces personnages fanfaronnent, font les innocents, surjouent les clichés de genre, bref, ils mentent pour sauver la face. Ce qui intéresse Ruben Östlund, c'est de construire des situations impossibles pour se demander ensuite jusqu'où les personnages peuvent aller, jusqu'où la honte peut nous faire aller. Il nous dévoile ainsi des personnages très humains, après tout. La seule issue, accepter de ne pas être ce qu'on attend de nous, et évidemment, savoir rire de soi-même. C'est ce que nous essayons de faire d'ailleurs ce soir. Je vous propose donc notre honte numéro 5. Premier boulot, premier jour, je suis chargée de mission junior dans une asso. J'accompagne la chargée de mission senior lors d'un premier rendez-vous. Nous sommes en retard, elle me demande de prévenir. Fébrile, je prends ma voix la plus pro possible. Bonjour. Julien Estival, blablabla, blablabla. Nous aurons 5 minutes de retard à notre rendez-vous. Bisous, bisous. Pas mal.
Oh, pas mal, on voit la scène.
Bisous, bisous. Ah, ce Julien. Ouais. Ouais, il n'est jamais là où on l'attend. Hein.
C'est... Non, mais je pense qu'il n'est pas là où il s'attend lui-même. Peut-être parfois aussi. Ok, donc, eh bien, on continue. D'ailleurs, avec Julien, il paraît que ça peut être bien la honte.
Au crépuscule, Basile ira faire un feu sur sa tombe. Il aimerait faire un feu dégueu avec du kérosène et des vieux pneus. Mais c'est pas sûr qu'il ose. Ça pue. Et ça mérite pas. Alors un feu de bois et des fleurs de cimetière au milieu, c'est déjà ça. Il faut de la fumée. Il faut montrer, il faut que ça se voit. Pas sûr qu'il reste. Ça sert à rien. Et puis ça expose. Il pensera à sa mère, à ses secrets, à son envol, à la clé que l'autre, il y avait mis dans ses petites mains, à cette petite voix quelque part, à cette certitude qui dit « Il ne tient qu'à toi de tout dire et de détruire ta famille, ça ne tient qu'à toi. » Parfois on donne et ça prive, ça vole. Fouillé par des mains douces, reste ce pouvoir de détruire ou de protéger. Il ira faire un feu, parce qu'il n'arrive pas à dire, à savoir, ce qu'il fera de cet héritage à la croisée des chemins, et qu'à tout prendre, brûler, ça ressemble à un hommage. Ça renverse aussi, ça rend visible. Même si encore, il n'ose toujours pas dire cette curieuse et sale ambivalence en héritage. Regarde pas ça, c'est pas humain. Il y a des choses plus belles à voir dans la vie. Sur l'embarcadère d'Ilado, dans la baie de Lagos, au Nigeria, alors que le bateau l'éloigne trop lentement de la plage privée que Total a louée pour ses employés expatriés, la petite Émilie entend des hommes en colère, la détresse d'un autre dans des filets qui se fait tabasser, à main nue du plat de la machette. Le voleur a été attrapé avec un appareil photo et des lunettes soutirées à un couple de Français en promenade, qui s'est plaint aux boys chargés des tâches subalternes. Elle est terrorisée et ne comprend pas encore ce qui provoque cette déferlante de violence. C'est la culture d'ici, quand un voleur est pris, on le tue. On montre l'exemple. Baisse les yeux, regarde pas ça. Les enfants sont des savants, et Émilie veut savoir pourquoi. Pourquoi on tue quelqu'un qui a juste pris un appareil photo? Pourquoi on le tue comme ça? C'est pas la culture qui tue, c'est les gens, c'est le vol. C'est d'avoir rapporté le vol à des gens qui ont cette culture. Est-ce que voler à des Français, ça fait la même chose que voler à des Nigérians? Pourquoi tu veux pas que je voie? T'as honte de quoi? T'as honte de quoi exactement? Après, chacun rentre chez soi. Chacun chez soi, chacun dans ses pantoufles. À l'époque, Émilie avait un salon de 120 mètres carrés, un jardin avec piscine et cours de tennis, des barreaux aux fenêtres. Roger faisait la cuisine, Joshua conduisait la Land Rover pour l'emmener chez ses copines de l'école française. Bien plus tard, elle sera gazée à Sainte-Soline. Basile relit le texte de Naz qu'il essaie d'apprendre. Il sort de la salle de sport. Pour jouer ce spectacle qui raconte le cheminement d'un jeune vers l'extrême droite, il faut savoir dire un texte en faisant des burpees, deadlift et autres squats. Un minuteur égrène le temps à attendre avant d'avaler 3 œufs à la coque. Lors de sa première, il sera interrompu par les jeunesses flamandes. Répression ou pas, quand on a des privilèges, la honte. Ça peut servir de moteur.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 103 FM. Eh bien, enchaînons avec notre dernière honte. Donc, dans ce studio, il y a quelqu'un qui a vécu un grand moment de gêne. Face A, une chanson, les yeux dans les yeux, une soirée parfaite. Face B, un petit fauteuil au bout d'un rang, un artiste qui vient dans le public, 900 personnes autour. Mmh. Vous avez compris quelque chose, vous ?
Rien du tout.
Absolument rien.
Eh bien, moi non plus. Alors, Anne, c'est toi.
Oui, il reste plus que moi. Non, alors c'est un moment très particulier où j'étais au concert de Philippe Catherine au Quai. Je pense que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Philippe Catherine descend de scène. Moi, j'étais placée sur les sièges qui sont à proximité des emplacements pour les gens PMR. Et donc, ce siège se termine, en fait, et il y a un grand vide. Et logiquement, il vient à côté de moi. Et il chante sa chanson. Et il me regarde, et je n'arrive pas à détourner le regard. Et c'est long. C'est hyper long, c'est un moment de... Je sais pas si c'est la... Alors, c'est la gênance, ça c'est sûr. Mais la honte, c'est maintenant que je me dis... Déjà, j'ai honte parce que je l'ai trouvé tellement laid, mais tellement laid.
Et c'est pas complètement faux.
Ouais, mais c'est quand même un peu... Il vient me chanter une chanson à moi, dans le théâtre 900, enfin en 900. Et de deux, je n'ai aucun souvenir de quelle était cette chanson. Donc je ne peux pas me faire un film, Philippe Catherine m'a chanté une chanson pour moi, je ne sais même plus quelle est cette chanson. Mais c'était long, voilà, c'est un grand moment de honte et de gêne. Voilà.
J'ai pensé que c'était la chanson « Un moment parfait ». Il me semble qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça dans son...
Je n'en ai aucune idée.
C'est la piste de compréhension que j'avais, mais...
Voilà,
et ça collerait bien avec ce sentiment de gênance.
Oui, peut-être qu'il a fait exprès de ça, mais moi j'étais liquide en fait, j'étais complètement liquide de transpiration parce que j'étais pas bien. Ouais, voilà. Donc, je vous souhaite pas Philippe Catherine pendant 3 minutes les yeux dans les yeux. C'est...
Ok. Bon,
il y a peu de chances que ça arrive.
On écoute un peu de musique.
Salut mes frères de carnage. Aux souvenirs, camarades cramés, zavétiques au goût du saccage. Ma pauvre dame, qu'est-ce qu'on s'est marré. Dès que je casse un verre à la maison, je me fais une remontée de conneries. Tout le monde à poil est mort au con. Qu'on reparte en grosser la nuit, je ressens ma tête bouillir. Au moindre petit sourire en coin, c'était du beau et même pire. Nos désastres, je les garde pas loin. Même pas honte. Même pas honte. Servait une noble cause. Gaspillons-nous puisqu'on est trop. Les gars, allons voir si j'arrose. C'était du fumier au galop. Si l'aurore me fait rigoler, c'est qu'on lui a mis 10-0. En équilibre sur un muret, hurlant qu'on était des héros. Et tiens, j'ai des bouffées de tendresse. Pauvre de nous et pauvre Luna qui on a montré nos fesses avant de s'écrouler dans la dune. Même pas honte. Même pas honte. Au moment où j'invoque nos fêtes, j'en ai gardé l'urgence de dire 3 cicatrices et un rire bête. Hey, combattant, singe d'hiver, où êtes-vous, ça me démange. Jusqu'ici j'ai fait que de me taire, mais je sais ce qu'on a fait aux anges. Quand de nous j'aime les instants, un peu des fois je fais le fier. Mais si demain m'est important, c'est qu'on n'a rien laissé d'hier. Même pas honte. Même pas honte.
« C'était Loïc Lantoine qui nous invite à ne pas être trop honteux de nos excès. À toi Caroline, il est temps de ta minute longue.
Une minute, c'est long quand on a honte. Tiens, tiens, est-ce que ce thème me permettrait de savoir ce que mon inconscient m'a soufflé lors du choix du nom de cette chronique ? Je laisse de côté cette piste, mais le sujet, contrairement à tous les autres, m'a fait pas mal cogiter sur moi. Je peux même dire qu'il m'a permis des prises de conscience sur ce que j'appellerais les hontes circonstancielles. Mais je m'attarde un peu trop sur mon nombril. Revenons aux coulisses et aux chansons honteuses. Ce moment en mode « Ah, la honte », un peu adolescent, n'a pas été de soi pour tout le monde dans le studio. Comme quoi, la légèreté demande parfois de la réflexion. Une minute, c'est long quand on a honte. Les secondes se déguisent en heures, comme dirait Tété dans ces grands moments de solitude ou l'art délicat de passer pour un con. Chanson auxquelles j'ai pensé tardivement, mais qui parle plus du ridicule que véritablement de la honte. La culpabilité a aussi failli s'inviter avec Bourvil et son titre « Je m'en veux ». Faut dire que culpabilité et honte s'entremêlent parfois. Une minute, c'est long quand on a honte. Mais sinon, ça passe très vite.
Merci Caroline.
La voix est libre.
La voix est libre.
Un thème.
Des textes.
Des textes.
Un thème.
Parfois littéraire.
Souvent terre à terre.
Sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Merci Caroline. Et voilà, c'en est fini de cette douloureuse émission. Alors on se regarde en face et on s'autorise. Et pour le reste, on espère que si ceux qui nous dirigent ne nous fassent pas trop honte, mais bon là, on n'a pas toutes les cartes en main. Et surtout, soyons fiers. Fiers de ne pas être productifs, fiers de parler parfois pour ne rien dire, et fiers de faire partie des acteurs de la vie associative, culturelle et éducative de notre belle région. On se retrouve dans un mois, même heure, même endroit, sur Radio Campus, le troisième mardi du mois, à 19h.